en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le 26 mai 2008, l'Académie des sciences morales et politiques recevait Isabelle Falque-Perrotin, conseiller d'État, qui fit une communication sur Internet et le droit. Canal Academy vous propose d'écouter la retransmission de son intervention au cours de cette séance du 29 mai 2008. Retrouvons en salle des séances Isabelle Falque-Perrotin.
Monsieur le Président, merci. Mesdames, Messieurs, membres de l'Institut, merci de me recevoir cet après-midi. Je suis très honorée d'être parmi vous dans ce lieu absolument prestigieux et je vais essayer de vous honorer en retour en vous proposant un propos qui, je l'espère, vous stimulera les uns et les autres. Alors, on va parler d'Internet et du droit. Rassurez-vous, je ne vais pas parler de façon théorique, comme une théoricienne du droit que je ne suis pas. Je vais parler en tant que praticienne de la régulation, puisque, comme l'a dit François Théré il y a un instant, je dirige effectivement aux destinées du Forum des droits sur l'Internet depuis maintenant 7 ans. Et cet organisme nous offre un point de vue tout à fait privilégié, effectivement, sur les enjeux de régulation que pose Internet. Alors, Internet et le droit. Internet et le droit ont, dès le début, je dirais dès 1996, date à laquelle Internet commence à quitter sa zone de spécialiste et à entrer dans le débat public, ils ont noué des relations conflictuelles et un petit peu ambiguës. En 1996, on a dit « le droit est mort ». Le droit est mort et c'est la revanche, à travers Internet, de la liberté sur la contrainte. Au même moment, la même année, les tribunaux français, les tribunaux étrangers, américains notamment, appliquaient sans grande émotion les principes généraux du droit d'auteur. Après tout, le vieux droit d'auteur avait, sans désemparer, avalé un poste de TSF et un cinématographe, il pouvait bien digérer Internet et sa câblerie. Aujourd'hui, on dirait plutôt Internet, c'est quelque chose qui est ingouvernable, immaîtrisable. Et somme toute, c'est un peu la vision et la version modernisée du vide. Et dans cette approche-là, Internet accompagne une forme de désenchantement à l'égard d'un monde internationalisé et de plus en plus menaçant. Alors, Internet, la mort du droit, Internet, l'application du droit, Internet, un espace incontrôlable par le droit, comment y répondre? Je crois qu'il faut d'abord se poser la question de ce qu'est Internet. Internet, ça n'est pas simplement une technologie qui permet aux ordinateurs du monde entier de dialoguer. Ça n'est pas simplement un nouveau média, plus sophistiqué, plus raffiné que notre vieille télévision. Ça n'est pas non plus un gadget générationnel pour les adolescents, pour les jeunes. En réalité, nous assistons, grâce au numérique et au protocole IP, qui est le protocole constitutif de l'Internet, à la mise en place d'un espace nouveau de sociabilité humaine, mondiale, accessible par l'ordinateur, la télévision ou le mobile, au sein duquel les individus, les entreprises, mais aussi les États peuvent potentiellement tout faire. Travailler, jouer, se divertir, échanger, rencontrer. Plus d'un milliard d'individus sont aujourd'hui connectés. Il y a 10 ans, ils étaient 100 millions. Ce monde, et on va le voir à travers ce que je vais vous dire, n'est pas une duplication de notre monde réel. Ça n'est pas le reflet simplement de notre monde réel. Si les acteurs, effectivement, sont les mêmes, ils se créent des usages et des comportements et des modes de fonctionnement qui sont radicalement nouveaux. Ce qui pousse certains à même parler de civilisation numérique. Il n'est pas étonnant, de ce fait, que la question du droit se pose d'une manière tout à fait inédite dans cet univers. sans que la formule utilisée dans le rapport du Conseil d'État de 1998, ce qui est illégal hors ligne l'est également en ligne, ne résume entièrement la situation. En fait, nous allons voir que Internet bouleverse notre approche du droit. Il conduit à un nouveau mode de production normatif. Il nous impose de revoir nos modes de régulation. Il met en cause, et c'est ça qui sera probablement le plus délicat, nos concepts juridiques fondamentaux de la propriété à la liberté. À travers le prisme du droit, c'est finalement un réexamen des bases de nos sociétés contemporaines auxquelles nous invite la société en réseau. Alors, essayons de bien comprendre tout ça. Quelle est la situation initiale auquel nous devions faire face ? Dans le monde réel, la situation était relativement simple. L'État était maître du droit. Et la réglementation étatique nationale, c'est-à-dire la réglementation d'origine gouvernementale ou parlementaire, s'imposait largement. Il y avait bien les entreprises qui brisaient un petit peu ce schéma en établissant au plan national ou international des règles communes. C'est ce qu'on a appelé la fameuse lex mercatoria. Mais celle-ci était cantonnée à des domaines extrêmement spécialisés. Il y avait bien des enjeux de coopération internationale entre États, en matière de justice, en matière de terrorisme, en matière de finances, par exemple. Mais de façon générale, le monde réel était normé par un droit d'origine publique et nationale. Internet change la donne et substitue à ce type d'encadrement des usages une normativité de nature plus complexe, négociée entre acteurs publics et privés. Il faut constater en premier lieu que la réglementation d'origine publique, d'origine étatique, trouve ses limites dans l'univers numérique. Il ne s'agit souvent pas tant des principes de la loi, qui restent valides, que de son application effective dans un univers international extrêmement volatile, considérablement décentralisé, dans lequel des contenus illégaux peuvent se propager d'internaute à internaute de façon quasi virale. On comprend aisément la dimension internationale du réseau. On se souvient, au début des années 2000, par exemple, de l'affaire Yahoo, qui a constitué une sorte de feuilleton judiciaire entre la France et les États-Unis en matière de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Une décision prise par la France a mis plusieurs années pour recevoir une exéquature aux États-Unis, avec en arrière-fond des décisions contradictoires rendues par les juridictions des deux États. Mais les difficultés d'application du droit que suscitent Internet et les réseaux numériques sont souvent moins spectaculaires que ces problèmes assez classiques, somme toute, de droit international privé, mais beaucoup plus délicates. Prenons par exemple le sujet des droits d'auteur. Les 4 années écoulées ont été marquées par la crise de la filière musicale, mise en danger, nous a-t-il été dit, par Internet et le téléchargement illégal. Les ayants droit ont multiplié les campagnes de communication alarmistes. Ils ont mobilisé les politiques, ils ont saisi, un peu moins qu'à l'étranger, les autorités judiciaires, et pourtant, malgré tous ces efforts, les internautes n'ont que peu modifié leurs pratiques de téléchargement, et la musique illégale a continué de circuler. Le peer-to-peer, qui est la technologie majeure utilisée pour les téléchargements d'œuvres contrefaites, est en effet une invention diabolique au regard du droit. Les internautes, que font-ils ? Ils échangent en direct des contenus grâce à un logiciel commun, sans qu'un serveur unique de distribution puisse être identifié et sans même que la musique téléchargée ne provienne d'une seule et même source. Ce dispositif offre évidemment une très faible prise au droit. Et jusqu'à présent, aucune mesure véritablement répressive n'a été efficace pour endiguer le phénomène. Peut-être dira-t-on que les sanctions prévues n'ont jamais connu le degré de coercition et la masse critique nécessaire au renversement de la tendance. Mais il reste qu'une part importante de la population ne craint plus les foudres judiciaires et considère que son installation dans un comportement durablement délictuel est possible et sans conséquence. Et ici, on voit bien que nous touchons à l'autorité même de la règle de droit. Le président de l'Union syndicale des magistrats déclarait en 2005 à Libération « Quand une pratique infractionnelle devient généralisée pour toute une génération, c'est la preuve que l'application d'un texte à un domaine particulier est inepte. » Cette situation fait écho à la déclaration d'indépendance du cybermonde qui a été produit en 1996 et qui est, dans le monde de l'Internet, considéré comme un des textes fondateurs de l'idéologie un peu libertaire de l'Internet. Je vous cite quelques phrases de ce texte. « Les gouvernements tirent leur pouvoir légitime du consentement des gouvernés. Vous ne l'avez pas demandé, nous ne nous l'avons pas donné. Vous n'avez pas été conviés, vous ne nous connaissez pas et vous ignorez tout de notre monde. » Le cyberespace n'est pas borné par vos frontières. Ne croyez pas que vous puissiez le construire comme s'il s'agissait d'un projet de construction publique. Vous ne le pouvez pas. C'est un acte de la nature et il se développe grâce à nos actions collectives. La seule loi que toutes les cultures qui nous constituent s'accordent à reconnaître de façon générale est la règle d'or, c'est-à-dire la nette étiquette. La seule loi que toutes les cultures qui nous constituent... Nous espérons que nous serons capables d'élaborer nos solutions particulières sur cette base. Mais nous ne pouvons pas accepter les solutions que vous tentez de nous imposer. Tout est dit dans ce petit texte. Et notamment le fait que la norme n'existe que par son acceptation. Ce qui n'est pas le cas, en général, pour la réglementation d'origine étatique, qui est construite comme une norme objective. Et dans le monde Internet, les individus ont la capacité réelle de donner ou de ne pas donner cette acceptation. Le changement est donc majeur et on mesure l'instabilité de la norme qui peut en résulter dès lors que c'est le degré d'acceptabilité de celle-ci qui conditionne son effectivité. En outre, et c'est un deuxième élément qui ressort de la déclaration d'indépendance, les habitants du monde numérique revendiquent une action collective et des solutions particulières qu'ils vont eux-mêmes développer pour élaborer la normativité du monde numérique. Et ça, c'est un deuxième élément très intéressant, c'est que si les acteurs de l'Internet peuvent utiliser les réseaux pour contester ou ignorer un régime juridique, ils peuvent aussi avoir une contribution plus positive à la normativité du monde numérique et être eux-mêmes créateurs de normes efficaces et légitime. Cette situation n'est pas entièrement nouvelle. Le monde des chercheurs et des universitaires a très tôt développé un corpus de règles, la nette étiquette, pour régir ces échanges, et quoique non écrites, ces règles sont une référence incontestable pour beaucoup d'usages. Les entreprises, également, ont traditionnellement mis au point des codes de conduite ou de déontologie pour préciser leurs obligations légales ou s'y substituer si c'est nécessaire. Le secteur de la vente à distance, du marketing direct, en sont de bons exemples. Dans les années récentes, ces règles professionnelles ont été revues par les acteurs pour les adapter aux spécificités du réseau. Et ces pratiques, rassemblées sur le terme d'autorégulation, sont particulièrement efficaces car elles complètent les règles générales du droit par une granularité plus fine et plus ajustable. Mais avec la démocratisation d'Internet, et notamment le développement de ce qu'on appelle le web participatif, cette dimension de règles autoproduites par une communauté d'utilisateurs se renforce. D'une part, ces communautés s'internationalisent et elles mettent en cause la capacité d'un État à assurer à ses ressortissants la protection à laquelle ils ont droit sur leur territoire national. On peut citer à cet égard le cas des plateformes communautaires qui, en moins de 5 ans, se sont créées et qui regroupe aujourd'hui des millions d'internautes dans le monde. Prenons par exemple le cas de MySpace. MySpace est une société américaine qui est née en août 2003 en Californie. MySpace compte aujourd'hui plus de 230 millions de membres. Il est demandé aux internautes mineurs qui veulent créer leur profil sur MySpace, outre leur âge et leur sexe, leurs préférences sexuelles. Ce type d'information n'est évidemment pas acceptable au regard de la législation française. Mais la dimension internationale du réseau rend cette question un peu théorique. Et il y a à ce jour plus de 3 millions de Français qui sont membres de MySpace. Cet exemple illustre le fait que par certains aspects, Internet met de côté l'appartenance de l'individu à un état donné et y substitue l'appartenance à une communauté transnationale. Cet exemple souligne le fait que l'encadrement normatif des usages qui se met en place est directement influencé par la culture juridique d'acteurs économiques majeurs, souvent anglo-saxons, différentes de la nôtre, et que les internautes, finalement, se coulent sans grande réticence dans de tels environnements. Alors, on peut analyser cette situation comme un impérialisme étatique d'un nouveau type, celui de la norme, les entreprises étant les instruments d'un État, en l'occurrence les États-Unis, voulant imposer à la planète ses droits domestiques. On peut aussi penser qu'Internet préfigure un rapport nouveau entre entreprises et États pour ce qui est du statut des personnes et de leur protection. Les entreprises se positionnant comme des acteurs plus pertinents pour promouvoir des standards mondiaux. Très récemment, par exemple, Google et Yahoo sont ainsi intervenus dans de nombreuses enceintes internationales pour militer en faveur de la mise en place de standards mondiaux en matière de protection de la vie privée. Et ils ont fait, au Conseil de l'Europe, aux Nations Unies, des propositions extrêmement précises en ce sens. Il conviendra cependant, me semble-t-il, d'être extrêmement vigilant sur les équilibres qui résulteront de ces négociations. Mais l'autre rupture que crée Internet est que cette communautarisation des règles se fait non seulement à l'initiative de grandes sociétés internationales comme Google et comme Yahoo, mais elle se fait également au niveau des individus eux-mêmes. L'exemple le plus topique de ce phénomène est probablement celui des licences libres. Celles-ci ont été inventées par un professeur de droit américain afin de favoriser le partage des œuvres et la diffusion de la culture. Les promoteurs de ces Creative Commons ont alors élaboré, à partir du copyright, un modèle de contrat, lequel a été progressivement traduit dans diverses langues. Les contrats reposent tous sur une autorisation de partage et la possibilité de rediffuser la création, chaque licence étant tenue pour équivalente à sa sœur en langue étrangère. Il s'agit en fait d'une sorte de mécanisme de boule de neige à l'échelle internationale. À ce jour, à l'exception de quelques affaires un peu mineures, aucune décision d'une cour supérieure n'est venue confirmer en France la légalité d'un tel dispositif et sa compatibilité avec le droit d'auteur. Mais finalement, l'essentiel n'est pas là. Les licences libres fonctionnent, elles sont couramment pratiquées pour la diffusion des créations non professionnelles par des internautes américains, japonais, français, et elles sont, en règle générale, respectées par les utilisateurs. Et finalement, que constate-t-on ? Qu'un droit international de fait a été produit par les individus sans même que sa compatibilité avec un droit national soit posée. Ces quelques exemples, et il y en aurait bien d'autres, je vous l'avoue, montrent à quel point le monde numérique entraîne un bouleversement de la normativité. L'autorité de la règle de droit est ébranlée à travers une capacité d'évasion et de résistance inédite au bénéfice de l'individu. Les communautés marchandes et non marchandes sont productives de règles, souvent fort efficaces et fort légitimes. La dimension internationale complique encore la donne, et les États livrent bataille de façon sous-jacente. Et tout ceci à une vitesse inouïe, avec une transformation quasi continue de la morphologie du réseau et de ses usages. L'encadrement de ceci qui naît sous nos yeux résulte donc, selon les cas, d'une combinaison, d'une concurrence, d'une négociation entre des normes d'origine variée. Nous sommes, vous le reconnaîtrez, quand même bien loin des cadres traditionnels. Dès lors, si l'on veut garder un objectif de régulation dans un univers de ce type, c'est-à-dire faire en sorte que des règles soient connues, comprises et respectées de tous, il faut changer d'approche et substituer au contrôle de la réglementation étatique classique une réponse plus pertinente et plus rapide. Il s'agit de construire des partenariats entre acteurs publics et privés afin que chacun d'entre eux puisse assumer une part de la charge de régulation, puisse promouvoir une part de la régulation. Cette régulation négociée, me semble-t-il, est le seul moyen de garder de la gouvernabilité dans un système tel que l'espace numérique. Ce sont les raisons qui ont présidé à la création du Forum des droits sur l'Internet en 2001. Il s'agissait à l'époque de répondre à l'innovation que constituait Internet et de constituer un nouvel outil pouvant accompagner la démocratisation de cet espace et faire en sorte que celui-ci se développe dans un cadre respectueux des droits et des libertés de chacun des acteurs. Le Forum des droits sur l'Internet est un lieu neutre au sein duquel pouvoirs publics, entreprises, sociétés civiles peuvent se rencontrer, travailler ensemble, confronter leurs objectifs et élaborer des solutions communes. Le Forum devait permettre de gérer les interdépendances, et on les a bien vues sur de nombreux exemples, entre le public et le privé en matière de régulation des réseaux numériques. 7 ans après sa création, au terme de plus de 26 recommandations qui ont largement inspiré les politiques publiques et celles des acteurs privés, la Commission d'accès aux documents administratifs vient de reconnaître à la mission du Forum un caractère de service public. Et à l'étranger, par ailleurs, cette démarche multi-acteurs fait des émules et les Nations Unies l'ont officiellement consacrée comme un élément essentiel de la gouvernance de l'Internet. La question que l'on peut néanmoins se poser est celle du rôle des États dans un univers de ce type. Garderont-ils leur statut privilégié, qui est leur statut actuel, pour fixer les règles du jeu, ou bien les partenariats qui s'imposent avec le secteur privé ou avec les individus en font-ils progressivement des acteurs plus banalisés? Dans les exercices de prospective récents, le rapport par exemple de la CIA en 2003, auquel s'est livrée la puissance américaine, si les États restent au centre du dispositif et leur stratégie le facteur clé de choix entre les scénarios d'évolution. Une des variables est justement leur capacité variable et différente à assimiler des questions complexes de gouvernance comme l'irruption des individus et des communautés. La réponse est sans doute dans un changement de leur mode d'intervention. Plutôt qu'une intervention directe, dont on mesure les limites dans un univers aussi complexe que celui d'Internet, la puissance publique doit probablement de plus en plus avoir un rôle de type environnemental, mettre en place des lieux, des processus de travail permettant aux acteurs de se rencontrer, de débattre de leurs objectifs et de construire du consensus et des solutions communes. Ce nouveau mode d'intervention, qui pourrait être qualifié de durable, est, me semble-t-il, aussi un produit du monde numérique. Alors, on a beaucoup parlé de questions de méthode. On ne peut cependant pas penser que les spécificités du monde numérique que j'ai évoquées devant vous, les rapports différents que les réseaux induisent entre les acteurs publics et les acteurs privés vont être limités aux questions de méthode et ne vont pas avoir des conséquences sur le fond. Non content de nous imposer des innovations méthodologiques, le monde numérique nous impose aussi de repenser nos concepts, ou plutôt d'en vérifier la pertinence. Et là, je voudrais vous donner simplement 2 exemples. Premier exemple, la propriété intellectuelle. On en a parlé. Les difficultés rencontrées dans les années récentes par les ayants droit et les pouvoirs publics en matière de protection des droits d'auteur dans l'univers numérique ne doivent pas être analysées comme de simples péripéties dans l'application des règles de droit traditionnelles dans un univers nouveau, ou du moins pas seulement. Elles témoignent du débat profond qui s'est noué sur la légitimité de ces droits, sur leur périmètre nécessaire, lorsqu'ils concernent les biens issus des productions de l'esprit. Plusieurs formes de contestation ont émergé, allant de la critique radicale à l'utilisation du droit d'auteur contre le droit d'auteur pour proposer un système jugé plus adapté au monde numérique. La critique radicale conduit certains à considérer que la possibilité de diffusion qu'offre le peer-to-peer est un moyen d'entrer en résistance contre une industrie culturelle qui souhaite s'accaparer le produit de la créativité des auteurs et des interprètes. Bien souvent, cette position rejoint l'idée que la culture doit être accessible à tous et gratuite, et que le marché est un facteur d'appauvrissement de la diversité culturelle. C'est aussi l'idée que la culture ne doit pas être contrôlée par des acteurs privés et que toute démarche d'appropriation ou de maîtrise de la circulation des biens culturels est illégitime. Souvent, dans ce discours idéologique, on retrouve une confusion entre l'information et l'œuvre. Cette identification de l'œuvre à l'information conduit à considérer que l'information étant libre, eh bien l'œuvre doit l'être aussi. La propriété intellectuelle doit donc être rejetée comme étant une spoliation de la collectivité au profit des acteurs économiques. Cette approche a servi de terreau à la justification de certains comportements individuels relevant de la contrefaçon. Et il faut noter l'influence des idées de Proudhon, qui n'a échappé à personne, si l'on veut bien en croire le titre provocateur de l'ouvrage du président de la FNAC de l'époque, Denis Oliven, « La gratuité, c'est le vol ». Dans une logique différente, donc deuxième forme de contestation, l'idée d'une licence globale qui a été apportée lors du débat parlementaire de la loi du 1er août 2006 sur les droits d'auteur. Cette licence globale devait permettre à chacun de partager les créations culturelles auxquelles il avait accès en les distribuant lui-même. L'individu, selon les membres de l'Alliance publique artiste, pouvait librement diffuser via les réseaux peer-to-peer des œuvres protégées en contrepartie d'une rémunération forfaitaire qu'il allait verser à son fournisseur d'accès. La gratuité dans ce schéma n'était donc pas de mise, puisqu'il s'agissait de redistribuer au créateur la juste part d'une rémunération forfaitaire acquittée par l'internaute. Le projet n'était donc pas une critique radicale de la propriété intellectuelle, mais une remise en cause du caractère exclusif de celle-ci. Le projet a été largement lui aussi critiqué et qualifié de collectivisation de la culture. En effet, pour les opposants au système, celui-ci reposant sur l'idée d'une licence obligatoire allait conduire à une négation du droit privatif d'autoriser ou d'interdire et allait légaliser par ailleurs des pratiques illégales, le téléchargement. Seul le droit à rémunération était maintenu, mais au prix d'une dépossession du titulaire de droit. Dernière forme de contestation, l'idée des biens communs informationnels. Ce mouvement extrêmement actif rejoint largement celui dont j'ai parlé il y a un instant, celui des licences libres. L'idée de base pour les biens communs informationnels est que les productions de l'esprit ne perdent pas leur utilité par leur consommation, mais au contraire en gagnent. Fondée sur le partage et le profit mutuel qui en résulte, est née l'idée d'utiliser le droit privatif pour assurer une sorte de renonciation à une fraction de la propriété, tant que le disposant peut être assuré de ce que le bénéficiaire va lui aussi partager les fruits des apports. Cette sorte de domaine public décrété par les créateurs eux-mêmes doit ainsi contribuer au bien commun. L'idée d'un copyleft ou d'une gauche d'auteur a pu ainsi être exprimée à propos du logiciel libre. L'idée centrale est de donner à quiconque la permission d'exécuter le programme, de le copier, de le modifier et d'en distribuer des versions modifiées, mais pas la permission d'ajouter des restrictions de son cru. Ce modèle des biens communs informationnels prospère depuis une vingtaine d'années dans les milieux scientifiques, mais il a trouvé avec Internet le canal de diffusion gratuit qui lui manquait. On le voit, dans cette dernière forme de contestation, la propriété se tourne dans une certaine mesure vers un abandon individuel au profit du collectif et invite l'utilisateur à la reproduction et à la remise en circulation. Et dans ce schéma, le droit ne sert qu'à limiter la restriction de la liberté et à interdire l'appropriation individuelle. Donc, vous voyez que par ces trois formes de contestation, on voit que Internet est au cœur d'un questionnement, dans le fond, extrêmement profond sur ce concept fondamental de la propriété appliquée aux biens intellectuels. Autre exemple de contestation qu'apporte Internet, et François Théré l'a dit en introduction, c'est la contestation relative à la vie privée. Et je terminerai par cela. Il y a quelques temps, un colloque affichait un titre provocateur, « Informatique et liberté, trop tard ». La vie privée apparaît en effet triplement menacée dans l'univers numérique. D'une part par les États, qui au nom de la lutte contre le terrorisme multiplient les contrôles et les fichiers. Le groupe des CNIL européennes, le groupe de l'article 29, a ainsi dénoncé en novembre 2006 la mise en place d'une société de surveillance et a appelé à une vigilance collective sur ces sujets. Les entreprises ne sont pas en reste, puisque leur objectif est d'offrir un service de plus en plus personnalisé aux clients et pour cela de collecter un maximum de données personnelles sur celui-ci. Ces bases de données sont au cœur des modèles économiques des géants de l'Internet que sont Google ou Yahoo. La nouveauté qu'apporte le monde numérique, c'est que l'internaute est désormais lui-même un artisan d'une certaine fragilisation de sa vie privée. En effet, depuis 2 ou 3 ans, l'Internet devient de plus en plus un canal d'expression personnelle. Intéressé par l'espace de relations sociales nouveau que constitue Internet, les individus cherchent naturellement à concrétiser leur présence dans ce nouvel univers pour en devenir de véritables résidents. À travers leurs blogs, et la France, vous le savez, est la championne internationale des blogs, avec plus de 15 millions en France de Skyblog, ou à travers leur appartenance à des réseaux sociaux de type Facebook, de type MySpace, ils se décrivent, se mettent en scène, font état de leurs activités, de leurs passions, diffusent des photos de leur famille, de leurs amis. Cette mise en scène personnelle les conduit parfois à indiquer en temps réel ce qu'ils font ou leur état d'esprit du moment, mais ceci au monde entier. Pour certains, cela se traduit par la création d'un soi-même numérisé, alors que pour d'autres, ce sont des mois plus ou moins fantasmés qui viennent peupler le réseau. Que l'on se décrive pour exister ou que l'on s'invente une ou des personnalités n'est finalement pas l'essentiel. L'important qu'apporte Internet paraît être le changement que cela induit pour l'individu qui de plus en plus voit se brouiller les frontières entre le public et l'intime. Certains ont conclu que la vie privée n'existe plus, d'autres que c'est à l'individu d'en définir les contours et qu'il ne peut exister une norme unique pour tous. Ce qui est sûr, c'est que l'identité numérique est en passe de devenir le véritable enjeu des libertés numériques de demain. Cette question risque d'autant plus essentielle dans la perspective de l'Internet du futur, ce fameux Web 3.0 dont on parle tant, dans cet univers de communication généralisée entre hommes, objets et machines, lorsque l'air ambiant deviendra communicant et où il n'y aura finalement plus besoin d'écran, tellement le monde réel et monde virtuel seront fortement imbriqués, où se logera la vie privée, dans quels interstices se lovera ce qui fait l'intime de chacun d'entre nous. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire cet après-midi. L'univers que je viens de vous décrire, je pense que vous en conviendrez avec moi, n'est pas aisément déchiffrable. Il remet en cause nos schémas spatio-temporels. Il questionne l'équilibre des pouvoirs et des responsabilités entre les États, les entreprises et les individus. Vous voyez que, à propos du droit, nous avons parlé d'enjeux politiques, économiques, d'enjeux de société et de gouvernance. J'espère vous avoir donné quelques clés de lecture et de compréhension. Je crois pour ma part que notre génération a une chance tout à fait unique de vivre cette transformation fondamentale du numérique, car si on peut en redouter certains des effets, il nous offre une opportunité unique de redéfinir nos modes de fonctionnement et finalement les bases de notre humanité. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la communication d'Isabelle Falque-Perrotin, conseiller d'État, prononcée le 26 mai 2008 devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques.